Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, on vous souhaite un excellent réveil. Il est un peu plus de 8h, et quasiment 8h03. Et nous sommes en direct sur Radio Immo pour votre matinale info hebdo. Comme chaque semaine, nous allons parcourir l'actualité immobilière. Nous sommes le 5 avril. Bonjour Erwan Le Mercier.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Vous allez bien?
Ça va? Très bien, et vous?
Ouais, vous avez fait un bon réveil, vous allez l'air flamboyant. Mon cher Erwan, nous allons parcourir pendant cette première heure tous les sujets passionnants autour de la ville, autour de l'immobilier, et si vous êtes professionnel de l'immobilier notamment, ou propriétaire bien évidemment. Et nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission de notre matinale, on va parler des clés, Erwan, on va parler des clés, voilà, les clés, c'est un vrai sujet, vous allez voir, c'est même assez singulier. Nous recevrons le CEO de MyLobby, Timothée Maucourt, dans la prochaine information. Tout de suite, bien évidemment, on va lancer tout à fait la revue de presse de la semaine avec vous, Erwan Le Mercier.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Eh bien, c'est le programme de la revue de presse avec Erwan Le Mercier.
Tout à fait. Ma prime rénove, les nouveautés aussi concernant la fiscalité immobilière, et puis une affaire incroyable, celle d'une propriétaire de 72 ans qui dénonce la prostitution dans son immeuble et qui termine incarcérée.
D'accord, oui, d'accord. Intéressant. Ça nous fait une bonne nouvelle, là, justement, pour le vendredi. Vous avez parlé, effectivement, de nouvelles exonérations, nouveaux impôts, reconductions. Pour le journal de l'agence, Sacha Boyer, le fondateur de My Notary et diplômé notaire, a fait un point sur toutes ces mesures qui entrent en vigueur cette année.
Tout à fait, on va commencer directement avec une mauvaise nouvelle, la hausse de la taxe foncière. Elle avait déjà augmenté en 2023 de 7%, et cette année, une augmentation minimum de 3,9% est attendue. Alors attention, 3,9%, c'est l'augmentation minimale qui peut avoir lieu, et dans certaines communes, elle peut également être votée, avec une augmentation justement qui serait liée à cette taxe. Dans un second point, il y a l'extension de la taxe sur les logements vacants, la TLV, et de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, THRS. Et en 2024, la TLV et la THRS vont pouvoir être appliquées dans davantage de communes qui sont listées dans le décret du 25 août 2023, alors n'étant applicables auparavant que dans des zones tendues. Pour rappel, une zone tendue, c'est une zone dans laquelle il est difficile de trouver un logement, la demande étant largement supérieure à l'offre, et cela pousse donc les prix à la hausse. Dans un troisième temps, eh bien écoutez, c'est la dernière année pour bénéficier de Locavantage et du dispositif de Normandie. Alors si vous ne connaissez pas, eh bien pour rappel, ce dispositif Locavantage, il offre aux bailleurs des avantages fiscaux dès lors qu'ils louent à des loyers plafonnés qui sont destinés à des locataires aux revenus modestes pour une durée d'au moins 6 ans. Et plus les loyers fixés sont bas, plus les réductions d'impôts sont importantes. Alors pour connaître les plafonds de loyers et de ressources, rendez-vous sur monprojet.ana.gouv.fr. Et le dispositif de Normandie, lui, il offre également des réductions d'impôts aux propriétaires. Il intervient notamment quand il s'engage au moment de l'acquisition d'un bien à le rénover puis le louer à des loyers plafonnés et des locataires aux revenus modestes. Un bien qui doit toutefois se situer dans une ville éligible au dispositif. Et là encore, pour le savoir, vous pouvez vous rendre sur le site du service public. Les réductions qui peuvent vous intéresser, elles sont calculées, elles, en durée de la fonction. 6 ans, une réduction de 12%. 9 ans, un abattement fiscal de 18, et enfin 12 ans, une réduction d'impôt de 21%.
En fonction de la durée de location, me semble-t-il.
Tout à fait, exactement.
Alors, fiscalité des locations meublées de tourisme, Erwan.
Exactement, on vous en parle depuis plusieurs semaines sur Radio Immo, notamment avec les JO, où il y a quelques mises en avant de tout ça. Eh bien, c'est difficile d'ignorer que la loi de finances 2024, elle a retenu une règle par erreur, d'après le gouvernement, portant sur la fiscalité des locations de meublés de tourisme. Alors, étant soumise au régime microbique, avec un abattement de 71% pour un chiffre d'affaires annuel inférieur à 188 700 euros, la fiscalité offre désormais un abattement de seulement 30% et passant à 51% en zone détendue avec un seuil de 15 000 euros.
Il était temps d'ailleurs de s'y pencher. Pour terminer, Erwan, prolongation du dispositif Pinel quand même.
Tout à fait. Alors c'est pas à vous que je vais l'expliquer, Sylvain, mais le dispositif Pinel, pour ceux et celles et ceux qui ne le savent pas, ça permet aux particuliers investissant dans des logements neufs destinés à la location de pouvoir bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu. Et une fois n'est pas coutume, cette année, il s'agit également de la dernière chance de profiter du dispositif Pinel, qui demeure attractif, bien que ses avantages soient moins significatifs que les années précédentes. Pour rappel, les taux de réduction d'impôt pour cette année sont les suivants. 9% du prix d'achat pour un engagement de location de 6 ans, 12% pour un engagement de 9 ans et 14% pour un engagement de 12 ans.
Et donc, il est encore temps, c'est le message qu'il faut qu'on envoie.
Profiter.
De profiter du Pinel, puisqu'il ne sera plus reconduit, comme chacun le sait. Fin 2024, il y a encore pas mal de bonnes affaires à faire. Autre sujet, MaPrimeRénov', on en parle tous les jours, cette aide à la rénovation énergétique, diminuée depuis le 1er avril, a priori.
Oui, tout à fait. MaPrimeRénov', c'est pas un poisson d'avril, c'est bel et bien une réalité. Poêle à bois, chaudière, rénovation énergétique, des logements, l'aide énergétique MaPrimeRénov' n'est plus. Enfin si, mais elle diminue de 30% et pour le moment, cette baisse concerne seulement l'installation de chaudières ou des poêles à bois, à bûches ou granulés. Une baisse qui s'explique notamment par le gouvernement comme étant trop coûteuse. En effet, pour eux, le dispositif MaPrimeRénov', il bénéficie depuis plusieurs années de moyens financiers importants. L'an dernier, elle était notée de 2,5 milliards d'euros. Et puis fin février, le ministère des Finances a procédé à un coup de rabot. Hop, on enlève 1 milliard d'euros du dispositif. Alors le gouvernement, lui, ne veut plus que les ménages se servent du dispositif pour financer des petits travaux, comme changer une chaudière ou les fenêtres. Selon lui, ces travaux coûtent beaucoup trop cher aux finances publiques et ne sont pas à la hauteur en termes de rénovation énergétique. Alors cette annonce, elle est incompréhensible pour les professionnels du secteur, parce que pour eux, l'installation de ces équipements coûte cher, et sans un soutien financier de l'État, de nombreux ménages vont renoncer à changer leur système de chauffage, et de facto, c'est une perte d'activité pour eux, alors qu'ils ont déjà moins de chantiers en ce moment qu'avant. Et en résumé, donc, à partir du 1er janvier 2025, vous pourrez toujours, selon vos conditions de ressources, solliciter MaPrimeRénov' pour une décarbonation du chauffage, par exemple, et vous pourrez passer à la pompe à chaleur, et vous l'obtiendrez aussi si vous engagez une grosse isolation de votre logement. En revanche, vous n'aurez plus MaPrimeRénov' si vous voulez juste changer vos fenêtres ou isoler votre toit.
Comme quoi, on a un gouvernement très sympathique qui rétropédale en permanence et qui avait annoncé un grand coup de renfort de communication l'extension de MaPrimeRénov'. Force de constater que l'austérité budgétaire est passée par la troisième dernier sujet de votre revue de presse. On en parlait en début de cette revue. C'est vraiment vrai ce qui s'est passé.
Tout à fait.
Une retraitée de 72 ans et son fils sont incarcérés depuis vendredi dernier pour une affaire pour le moins déroutante. Ça s'appelle quoi? Du proxénétisme hôtelier?
Tout à fait. Alors, c'est une information qui est révélée par nos confrères de La Dépêche. La septuagénaire avait signalé justement à deux reprises la présence d'un réseau de prostitution dans son immeuble à Toulouse. Alors, elle est kinésithérapeute sans aucun antécédent judiciaire. Elle a donc alerté les autorités. Une première fois en avril 2022 pour des violences et de la prostitution présumée se déroulant dans sa propriété. Et puis en 2023, après avoir mené quelques recherches, elle revient vers les autorités.
Mais avec ses propres locataires. Hein.
Exactement. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'elle a pu faire des recherches un petit peu. Et elle revient vers les autorités, cette fois-ci du coup avec des informations plus précises, sur des locataires qui sous-louent leur logement à des personnes pour des activités sexuelles tarifées. Alors attendez, parce que le comble de l'histoire arrive quand même. Bien évidemment, les autorités et la police aux frontières, et surtout la division de lutte contre la criminalité organisée et spécialisée, y mènent des investigations approfondies, incluant des écoutes et des filatures, pour en arriver à deux conclusions. D'un côté, les enquêteurs affirment avoir récolté des preuves mettant en lumière la collaboration de la famille dans la gestion financière des activités de prostitution, malgré des explications sur un important prêt immobilier à rembourser. Et puis de l'autre côté, les avocats de la famille, eux, ils ne comprennent pas. Ils expliquent que leurs clients, ils ont eu d'autres choix que de collecter les loyers pour pouvoir rembourser leurs prêts. Donc l'incarcération de la mère et de son fils a suscité l'incompréhension et l'inquiétude parmi leur entourage. Les avocats de la famille, eux, dénoncent une détention provisoire jugée disproportionnée et expriment leur préoccupation quant à l'état de santé de leur cliente et dénoncent l'absence de réaction initiale des forces de l'ordre. D'où ma question, si dans l'un de vos biens, Sylvain, vous découvrez un réseau de ce type, que feriez-vous ?
Je prends la poutre d'escampette. En tout cas, une chose est sûre, c'est que encore une peine à l'égard du propriétaire bailleur, parce que non seulement c'est interdit de sous-louer, et ça le locataire le savait, mais en plus, s'il sous-loue, alors là, à des prostituées qui tarifient leurs prestations, du coup, ça retombe parce que la responsabilité est exposée. Je pense que ça va pas traîner longtemps.
J'espère quand même pour elle, parce que c'est assez triste quand même d'avoir dit deux fois à la police, et puis c'est elle qui se retrouve derrière les barreaux.
Voilà, donc vigilance les amis, on enchaîne, on se retrouve tout de suite après.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
L'intelligence artificielle, mesdames et messieurs. L'intelligence. Vous savez ce que c'est que l'intelligence artificielle, Erwan ?
Paraît-il.
Voilà. Eh bien, écoutez, allez. Alors, remarquez, en même temps, vous êtes de la génération. Hein, vous êtes ce qu'on appelle un digital natif. Voilà. Elle est au cœur des évolutions technologiques dans le monde de l'immobilier. Demain, tous, avec de l'intelligence artificielle, allons-nous cloner Baptiste Plouchard ? Telle est la question que l'on va tous se poser. Et en plus, je plaisante qu'à moitié, puisqu'on peut faire ce qu'on appelle du clonage numérique. Je vous fais parler chinois, japonais, sans aucun problème. IA entre mythe et réalité, on écoute une chronique de notre ami Vincent Favreau.
L'intelligence artificielle va-t-elle changer le monde de l'immobilier ? C'est la grande question que tout à chacun va devoir se poser dans les années à venir, et peut-être même avant, car de nombreux sites utilisent déjà une intelligence artificielle. Pensez notamment aux chatbots, ces outils conversationnels qui apparaissent en bas des sites et vous proposent leur aide. Ce sont des intelligences artificielles, des IA, qui réagissent en fonction de ce que vous inscrivez ou choisissez. Nos confrères de BFM TV se réfèrent au dernier salon du MIPIM à Cannes pour parler des tendances en matière d'intelligence artificielle qui ne restera pas cantonnée à l'aide en bas du site. Comme cette société qui propose ses services d'IA pour orienter une demande vers la bonne personne, chercher une info dans un gros dossier de location ou pour renseigner les données d'un bien, un précieux temps gagné pour par exemple se tourner davantage vers la relation client. Chacun verra ici les possibilités de gain de temps, mais l'IA ira-t-elle plus loin ? Oui, comme le prouvent ces entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour, par exemple, analyser des tonnes de data publiques afin d'estimer la demande dans un quartier X ou Y et ainsi permettre aux proprios d'ajuster des loyers. Et demain, encore plus loin ou pas, c'est déjà le cas, par exemple chez Meilleur Bien, qui travaille avec Neo, un logiciel de génération automatique d'annonces qui fait gagner une centaine d'heures de travail par an aux agents, comme l'explique le président fondateur de Meilleur Bien. Alors faut-il craindre l'IA ? Va-t-elle remplacer nos traditionnels métiers divers et variés de l'immobilier ? Il conviendra de garder en tête d'avoir l'intelligence artificielle comme un outil, et non comme une béquille, comme un plus et non comme un remplaçant. À voir si dans le temps, les tendances ne s'inversent pas.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Sylvain, vous étiez mercredi soir à la deuxième édition de la Nuit de l'Action de l'Université de la Ville de demain. Et vous en avez profité, en bon journaliste que vous êtes, pour interviewer Meka Brunel, la présidente de la Fondation Palladio, qui est également sous l'égide de la Fondation de France, et Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier.
Et nous sommes ici à la Nuit de l'Action, au Comet Meeting 35 rue Saint-Marc. On est très ravis d'être ici. On va parler d'un sujet. Alors, Comet Meeting, la Nuit de l'Action, on peut penser que c'est Comet Books, on peut penser que c'est des bandes dessinées ou du cinéma. Pas du tout. On va apprendre de façon ludique à fabriquer la ville. Alors, je suis ravi puisque j'ai été invité très gentiment par la présidente de la Fondation Palladio qui était avec moi. Bonsoir, Meka Brunel.
Bonsoir, merci d'être avec nous.
Alors merci également de nous avoir invités, c'était fut un moment extraordinaire. Et vous le savez parce que vous êtes très attaché à la ville et vous vous intéressez énormément aux territoires qui ont une véritable attractivité à développer. Et aussi, il faut le dire, une nouvelle génération d'élus qui incarne une façon de faire de la politique différente. Et on peut le saluer. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est aussi la redécouverte d'une forme idéale. Peut-être un peu gaullienne, peut-être, ou pas. Mais en tout cas, aller au-delà de simples intérêts techniques et dire aussi qu'on aime son territoire et donc on aime les maires de France. Et je suis ravi d'accueillir Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Comment allez-vous ?
Bonsoir, très bien et encore mieux après cette soirée qui a été pleine d'énergie, la Nuit de l'Action.
Alors, on va aller très concret, Meka, comme on le fait à chaque fois dans nos émissions. 10 mesures, 10 actions collectives, dont l'idée, finalement, est de procéder, dans l'idée, à un projet et un projet des réalités. Est-ce que ça va se faire ?
Pour la plupart, ce sont déjà en cours et on étape par étape au monde quelles sont les ambitions de l'année d'après. On l'a vu ce soir avec toutes les actions qui ont été montrées. On voit à quel point ça commence à rentrer dans les mœurs. On voit que le vocabulaire commence à rentrer dans les mœurs. Et dans un monde où on parle tout le temps des trains qui n'arrivent pas à l'heure ou qui n'arrivent pas du tout, eh bien, voir autant d'énergie, sans demander de nouvelles lois, sans demander de nouvelles subsides, mais en disant, utilisons notre intelligence collective. Vous savez, on parle souvent de matière première rare, on parle de matière rare. Eh bien, il y a une matière qui n'est pas rare, qui est la matière grise. 8 milliards dans le monde, on doit être capable de l'utiliser, et c'est ce que nous essayons de faire. On va essaimer à partir de ce Comet Conférence Group, ici, dans le très bel immeuble d'Altarea Cogedim.
Merci, Meka. Quentin, Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous incarnez, d'ailleurs on va venir chez vous bientôt avec nos confrères du Figaro, une nouvelle génération de politiques. Vous pourriez, on va le dire très clairement, vous investir dans le public, faire une très très belle carrière. Vous avez choisi, comme une forme de sacerdoce, le service aux autres, l'intérêt général dans votre ville. Et vous avez dit une chose très juste. Très récemment, vous avez retrouvé des couleurs démographiques positive, avec des écoles, et vous l'avez développé, puisqu'effectivement Saint-Dizier a bénéficié, on peut le dire, d'une espèce de bashing ville pendant quelques années, à tort, quand on voit le territoire. Pour vous, quel est l'enjeu lorsqu'on est un maire de France, aujourd'hui, en 2024, bien évidemment avec toute l'énergie positive que l'on a trouvée, mais des difficultés urbaines dont vous connaissez les contours?
L'enjeu, en fait, n'est pas que Saint-Dizier, il n'est pas que Bragard, l'enjeu c'est national, c'est-à-dire comment on répond à cette envie profonde des Français d'aller vivre là où ils le désirent. Et quand vous les interrogez, 75% des Français disent « moi je voudrais aller vivre dans une petite ville, dans un village, à la campagne ». Pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'ils ne trouvent pas le logement qui leur convient, parce qu'ils ne trouvent pas les services, parce qu'ils ne trouvent pas la culture, parce qu'ils ne trouvent pas le sport finalement, parce qu'ils ne trouvent pas tout ce qu'ils aiment trouver dans la grande ville. Alors notre travail à nous, mon travail à moi comme maire, avec tous nos collègues élus et avec l'université de la ville de demain, c'est de faire en sorte que cette espèce de magie qu'on a dans les grandes villes se retrouve jusque dans nos villes. Et pour ça, il faut inventer des modèles nouveaux. Et donc, avec les équipes de Saint-Dizier, nous avons proposé notre ville comme un terrain de jeu, une ville d'expérimentation pour tester des nouveaux modèles qui puissent être dupliqués dans les 100 villes qui nous ressemblent pour les 20 millions de Français qui vivent dans les villes comme les nôtres.
Dites-nous pourquoi vous vous êtes engagé à titre personnel.
Moi, je me suis engagé, je pense, à cause de quelque chose d'abord de très perso avec mon épouse, qui est originaire de Haute-Marne. On a voulu finalement sortir des sentiers battus, sortir de notre carrière un peu facile. Moi, j'étais avocat et elle était consultante en développement économique des territoires, et dire, et si on allait voir la France, la vraie, celle dans laquelle on a nos racines, pour y tenter quelque chose, et peut-être même d'abord pour y apprendre et se redécouvrir nous-mêmes. Je peux vous dire que des claques, on en a pris. Moi, j'en ai pris beaucoup à titre personnel, mais c'est des claques magiques et magnifiques qui font qu'on grandit en réalité avec un territoire à qui je dois énormément.
Ça nous laisse espérer, mais qu'à d'avoir des générations de politiques à la tête des villes de France.
Ah, ça nous laisse espérer et ça montre à quel point notre pays est riche de talents, de compétences, d'envie, d'inventivité. Et une grande partie des actions collectives que j'ai entendues ce soir peuvent s'exporter. On peut apprendre beaucoup et transmettre. Donc finalement, c'est plutôt une belle, bonne chose et une satisfaction de se dire, voilà... je suis peut-être de la génération des baby-boomers, mais au moins la génération d'après est là.
Merci beaucoup Méka Brunel, merci Quentin Brière, on vous dit très vite.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System, promis, et bien ici.
De retour dans votre matinale préférée du vendredi, on espère que vous allez bien. Depuis le 1er janvier, les prix de l'immobilier sont repartis à la hausse dans certaines communes. C'est en tout cas ce que révèle le baromètre mensuel bien ici. Pour BFM Business, c'est vous, Erwan, qui vous y êtes penché.
Tout à fait, mais c'est un peu comme dans Astérix, hein, vous savez, certains villages, ou plutôt des villes, elles aiment bien résister et affichent toutefois encore des baisses de plus d'1%. Alors oui, si dans la majorité des grandes villes de France, la baisse des prix reste la tendance depuis ce début d'année, les hausses des prix, elles sont notables, et selon le baromètre bien ici, BFM Business, qui a été réalisé à partir des prix des annonces avant négociation, on peut observer qu'à Rennes, à Dunkerque, les prix progressent de moins de 1%. À Paris, Saint-Étienne, Boulogne, Surmer, Gap et Le Havre, et ben la hausse des prix est comprise entre 1 et 2% entre le 1er janvier 2024 et le 1er avril 2024. Mais plus impressionnant encore, Sylvain, toujours sur la même période, les prix s'envolent de 3,8% et de 6,2% dans deux villes. Est-ce que vous avez une idée?
3%, 10%?
Ouais, et à quelle ville ça correspondrait en France?
Alors, en augmentation, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Moi, je pense que la Bretagne se défend plutôt pas mal.
Eh bien, écoutez, vous êtes pas très loin, puisque les bonnes réponses sont 3,8 pour Caen et 6,2% d'augmentation à Calais. C'est des villes quand même à laquelle on pense pas tout de suite.
Franchement, j'y aurais pas pensé. Calais, façade mer, effectivement, ça peut prendre. Il paraît même que la façade littorale atlantique est en train de bien se défendre.
Bah écoutez, vous anticipez même ma question, parce que j'allais vous demander ce que vous pensiez de la ville de Calais en tant qu'expert.
Calais, quand on aura réglé les problèmes de l'hébergement des personnes qui sont en transit, je pense que ce sera une très jolie ville.
Je suis d'accord. Et pour finir, d'autres villes, elles pourraient également voir leurs prix s'orienter à la hausse. Comme vous le disiez, le cas de Bordeaux, Lille et Strasbourg, où les prix sont quasiment stables. Eux, ils sont à moins 0,1% depuis janvier. À Nantes, Nîmes, Toulon, Nice, Grenoble, par exemple, les prix, eux, s'affichent en très légère baisse, entre moins 0,5 et moins 0,9%. En revanche, quelques villes affichent encore des baisses de plus de 1%. Mauvaise nouvelle pour les propriétaires, mais bonne pour les futurs locataires, puisque c'est le cas de Rouen, écoutez bien, Lyon, Angers, Marseille, Toulouse, Dijon, où depuis le début de l'année, les prix ont cédé entre 1 et 2%. À Colmar, Reims, Montpellier et Toulouse, les prix, eux, baissent entre 2 et 3%. Et enfin, si vous voulez habiter à Villeurbanne, eh bien, écoutez la bonne nouvelle, puisque les prix, eux, reculent de 3%.
Il était temps que ça baisse un peu, parce qu'effectivement, c'était quand même bien monté. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les locataires, mon cher Erwan, mais aussi pour les accédants. Voilà, il est temps aussi d'acheter, les amis, et de vous remettre sur ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Des résultats qu'on va retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Radio Immo, on enchaîne.
Le Mac de l'Immo, sur Radio Immo.
Alors, hier soir et mercredi, pendant ces deux journées, Radio Immo était présente au Forum de l'aménagement durable avec l'Union nationale des aménageurs, qui est le syndicat qui regroupe, vous savez, les aménageurs privés. Et notre super rédactrice en chef, Bérénice Deville Florio, a reçu sur son plateau, il était temps d'ailleurs de l'avoir sur le plateau, le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, et elle l'a interrogé notamment sur l'exclusion du prêt à taux zéro de la maison individuelle. On l'écoute tout de suite.
Alors, monsieur le ministre, vous nous confirmez qu'il y aura une loi de logement. Donc, vous l'avez annoncé hier, d'ailleurs, lors de votre audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que vous avez présidée. Vous avez détaillé votre feuille de route avec les 8 leviers principaux. En revanche, vous avez parlé du logement des classes moyennes. Alors, on a une question. Il y a une question qu'on se pose, que les professionnels se posent. Pourquoi exclure la maison individuelle du PTZ, du prêt à taux zéro? Puisqu'on le sait, on le dit, la maison individuelle, ça permet aux classes moyennes, voilà, c'est un ascenseur social, hein, ça permet, de continuer leur parcours résidentiel, de ne plus être locataire, ça permettrait aussi de débloquer le secteur. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière de la part du gouvernement?
Alors, vous y allez fort dans la question. Merci pour la question sur le PTZ, qui me permet quand même de rappeler, parce que à écouter parfois certains, on a l'impression que le PTZ a totalement disparu dans le pays. Non, l'année dernière, il y avait 50 000 PTZ qui avaient été donnés. C'est vrai sur la maison individuelle. Cette année, il y a 40 000 PTZ en 2024 qui vont arriver. C'est vrai que c'est sur du collectif. Donc, il y a eu un choix qui a été fait lors du dernier budget de recentrer le PTZ sur du collectif et effectivement de le déprioriser sur la maison individuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas pousser la maison individuelle. Ça veut dire que le PTZ n'a pas été retenu comme un élément pour pousser la maison individuelle. Mais le modèle de la maison individuelle est en réalité très ancré dans le rêve et dans la culture des Français. Et je suis le Premier ministre l'a lui aussi dit, notre objectif c'est de faciliter l'accès au crédit, l'accès à l'acquisition pour des Français qui veulent vivre parfois dans du pavillonnaire, dans de la maison individuelle. Et c'est un modèle qui est non seulement respectable, mais que nous souhaitons encourager. Il n'y a pas que le PTZ, il y a d'autres leviers sur lesquels on est en train de bosser. La flexibilisation des règles du HCSF sur l'endettement.
Oui, avec la proposition de loi notamment de Lionel Causse.
Qui va être bientôt étudiée à l'Assemblée.
Alors lui, il propose deux parlementaires... qui fasse partie de ce Haut Conseil de stabilité financière qui a 8 membres pour l'instant et de se focaliser sur le reste à vivre.
Exactement, parce qu'aujourd'hui vous avez une règle de 35% d'endettement qui aujourd'hui peut parfois empêcher certains ménages d'accéder au crédit parce qu'ils sont bloqués à 35% d'endettement. Donc la question que pose Lionel, et il n'est pas le seul, c'est la flexibilité de cette règle pour permettre plus facilement l'acquisition. On travaille aussi avec les banques sur de nouvelles formes de prêts, notamment des prêts hybrides, sur lesquels on arriverait à débloquer des situations d'acquisition qui sont bloquées. On travaille sur le BRS, qu'on veut aussi encourager, BRS solidaire, pour décorréler le prix du foncier du prix du bâti. Quand on regarde le prix de l'immobilier ces 50 dernières années et l'augmentation des salaires des 50 dernières années, on voit qu'il y a un écart de plus en plus important. Donc il faut qu'on engage tout le secteur, y compris le secteur financier, dans une réflexion de long terme sur comment est-ce qu'on facilite l'accès au crédit, parce que le pouvoir d'achat immobilier des Français aujourd'hui n'est pas le même que ceux de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qu'étant donné l'évolution des prix structurels de l'immobilier ces dernières années, on a un pouvoir d'achat immobilier qui a été réduit. Donc c'est, si vous voulez, restreindre la question de l'acquisition au PTZ est probablement un peu réducteur. Sur 800 000 transactions, c'était 50 000 l'année dernière, ça sera 40 000 cette année.
C'est déjà ça.
Je sais. Et il y aura des discussions budgétaires lors de l'automne prochain, bien évidemment. Elles porteront pas que sur le PTZ. Il y a aussi d'autres dispositifs qu'on essaye d'envisager, notamment sur des mécanismes de donation-succession sur lesquels on travaille actuellement avec les
vous
équipes.
Vous voulez supprimer les impôts
Disons que nous réfléchissons à des leviers qui pourraient être efficaces.
Ça permettrait d'avoir un apport pour les Français.
Dans un contexte où vous avez des taux d'intérêt qui sont vachement élevés, le fait de permettre d'avoir un apport un peu plus important et donc de débloquer des situations bancaires qui étaient bloquées, ça peut être intéressant de le faire. Reste à paramétrer les choses et à voir comment est-ce qu'on y arriverait, mais on l'investigue actuellement. Et après, vous savez, la première variable pour débloquer la demande, c'est le taux d'intérêt. On a des signaux plutôt encourageants, puisque les taux d'intérêt se sont stabilisés, voire ont légèrement baissé. Ouais. Et les banques nous disent qu'en février, elles ont fait 30% de crédit en plus qu'en janvier, même si
ça reste un niveau faible. Par rapport à il y a deux ans, c'était...
Mais j'ai le souvenir d'avoir fait un plateau avec Madame Bédag il y a quelques jours, qui disait elle-même, ça se retente aujourd'hui. C'est-à-dire que la banque vous a peut-être dit non il y a 6 ou 9 mois parce qu'on était en pleine phase haussière. Aujourd'hui, entre la baisse légère du prix de l'immobilier, plus le fait que ça se détend un petit peu au niveau des intérêts,
Bédag est obligée d'avoir ce discours-là, vu ce qui se passe dans...
Mais on a tous intérêt, je pense qu'on a tous intérêt à se dire qu'on a besoin de réamorcer la machine et relancer la demande, et donc encourager les uns et les autres à refaire des simulations et retenter le coup, parce que oui, on veut permettre à un maximum de Français de réaliser leur rêve d'acquisition de leur maison ou de leur appartement.
Le Mac de l'Immo, sur Radio Immo.
De retour sur le plateau avec vous, Erwan Lemercier. On a une nouvelle loi au Sénat.
Tout à fait. La loi qui vise à donner au maire le pouvoir pour les locations meublées touristiques. Elle a quelque peu été chahutée lors de sa dernière audition à la commission d'enquête. On en parle avec Vincent Favéro.
Passera ou passera pas la nouvelle loi redonnant au maire la possibilité d'arbitrer sur les locations type Airbnb? C'est ce que proposent deux députés, Anaïg Le Meur, députée Renaissance du Finistère, et Inaki Etchaniz, députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques, à travers une loi en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle vise à permettre de passer à 90 jours, par exemple, le nombre de jours en location meublée touristique sur une commune, 90 jours au lieu de 120 actuellement. Début avril, deux représentants des meublés touristiques étaient auditionnés au Sénat dans la commission des affaires économiques. Clément Hurley, le directeur général France d'Airbnb, et Philippe Bauer, vice-président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, la fédération qui représente les entreprises du secteur. Ils ont montré tous les deux leur détermination à enterrer ces propositions avec différents arguments que notent nos confrères des Échos cette semaine. Sur la réduction à 90 jours, les deux représentants estiment que l'impact sur le logement sera nul, mais que le pouvoir d'achat et l'attractivité des territoires vont très fortement pâtir de cette nouvelle mesure. Traduisez, les logements ne reviendront pas forcément dans des locations longue durée, mais les communes vont pâtir du fait de ne plus avoir de touristes. Et de sortir l'argument massue des chiffres, Airbnb a rapporté en 2023 près de 187 millions d'euros de taxes de séjour aux collectivités territoriales et en moyenne 3 900 euros bruts de revenus annuels aux logeurs, comme le rapportent nos confrères des Échos. Autre changement, le DPE, avec les adaptations proposées dans cette loi qui soumettrait aux locations la réalisation d'un DPE. Objectif, obliger les propriétaires de meublés touristiques à la transition écologique et ne pas louer de passoires thermiques. Une barrière à l'entrée pour les nouveaux meublés touristiques, dit le vice-président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances, même si la loi prévoit une adaptation dans certaines circonstances locales, par exemple en montagne où les passoires thermiques sont légion, mais où la condition de louer est très forte pour la viabilité économique des territoires. En définitive, tous les arguments sont bons pour descendre la proposition, car demain c'est bien une opposition qui va monter avec au centre deux propriétaires. L'un veut vivre tranquillement sans Airbnb dans son voisinage et l'autre veut vivre tranquillement avec ses rentrées Airbnb sur son compte en banque, mais peut-être ses logements plus loin de chez lui.
Le Mac de l'Immo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Sylvain, mercredi soir, lors de la deuxième édition de la Nuit de l'Action de l'Université de la Ville de demain, vous avez également interviewé Axel Nevers, le directeur de l'UVD, l'Université de la Ville de demain.
Et nous voici de retour à la seconde édition de la Nuit de l'Action avec l'Université de la Ville de demain. Ici, Comet Meetings, 35 rue Saint-Marc, dans un lieu emblématique, avec celui qui dirige aujourd'hui l'Université de la Ville de demain. Ça dit beaucoup de choses. On va d'abord vous dire, les amis, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, qu'est la Ville de demain, quelle est cette université dirigée par Axel Nevers. Bonsoir Axel.
Eh ben bonsoir et merci de me donner l'opportunité de raconter un petit peu ce qu'on fait au sein de l'Université de la Ville de Demain. C'est parti d'un constat simple et qui est incarné par tout le parcours de Bertrand de Fedot. C'est la nécessité de faire se rencontrer les acteurs qui ont en charge la ville et leur faire prendre conscience de leur capacité d'impact s'ils décident de coopérer et d'agir ensemble. Donc c'est ça le point de départ de l'Université de la Ville de Demain. Ça a commencé en plein Covid, donc on était tous loin les uns des autres. Et on a réussi à faire le premier sommet en sortie de Covid. On était peut-être le premier événement de cette industrie en sortie de Covid. Et ça a eu un effet bœuf et un effet presque émotionnel de se retrouver tous ensemble autour d'enjeux de transition et d'enjeux d'intérêt général. Et ça nous a donné envie de faire des choses ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est né le sommet de l'Université de la Ville de Demain. On se réunit tous ensemble, à huis clos, on se parle droit dans les yeux, et on décide de faire des choses ensemble.
Alors, je ne peux pas résister à la question. Souvent, on pourrait vous faire le reproche de dire c'est de l'entre-soi, ou on se donne de bonnes idées parisiennes, conceptuelles, théoriques. Alors, moi, ce que j'ai entendu, effectivement, je ne dis pas du tout, mais vraiment pas du tout. Il y a quelque chose de très concret, justement, Axel. Comme toute action est précédée par la pensée et la conception, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer de façon concrète des actions déjà menées sur le terrain, concrètement, par les opérateurs? Parce que là, il y avait toute la planète immobilière, oui, toute la planète de la fabrique de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette sensation qu'on passe à l'adoption opérationnelle?
En fait, pour moi, c'est tout l'enjeu de la décarbonation et de la transition, c'est d'opérationnaliser les bons sentiments qu'on avait dans les reportings réglementaires jusque-là. Donc la RSE aujourd'hui, elle devient opérationnelle. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer au sein de l'Université de la Ville de Demain, c'est qu'en fait, ce sont des actes, ce sont des axes stratégiques, ce sont des axes structurants pour la filière, et pour ça, on a la nécessité de coopérer. C'est comme ça qu'on va y arriver, tous ensemble. Et effectivement, on n'a pas cette capacité à mesurer cet impact de cette industrie. C'est tout l'objet de l'action collective qu'on mène depuis cette année avec EY et notamment Unibail-Rodamco. C'est d'essayer de trouver le cadre conceptuel qui nous permet de mesurer cet impact.
Alors justement, c'est très intéressant parce que j'ai vu de façon très concrète les 10 actions menées par des groupes. Et la particularité, c'est que chaque groupe était opérationnel. Chaque groupe, par exemple, représente un pan de l'industrie, ou peut-être même de l'État, ou des collectivités locales. On a vu l'expérience menée par Florian Berco, maire de Laval, bien évidemment, qui est assez précurseur. Alors, je sais que vous êtes très fiers, finalement, de voir mise en œuvre toutes ces idées. C'est quoi la suite de tous ces projets?
Déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas la prétention de savoir, nous. La Fondation Palladio ne se considère pas comme un think tank et comme un donneur de leçons. On s'appuie sur le savoir-faire des acteurs, publics et privés, et on essaie de faire passer à l'échelle les initiatives qui ont, selon nous, le meilleur impact à différents titres. Donc nous, notre objectif à court et moyen terme, c'est d'accompagner, d'outiller ces actions collectives pour leur permettre de maximiser l'impact. C'est ça l'objet de la Fondation, c'est d'accompagner les acteurs dans ces grandes transitions.
Donc, alors, justement, d'accompagner les acteurs dans ces grandes transitions, concrètement, ça demande des moyens et ça demande une volonté politique. Alors, il y a une chose qui ne m'a pas échappé, c'est que c'était écrit, hein, on ne demande rien, on veut rien. En fait, c'est comme si vous disiez, alors je vous provoque un peu, c'est comme si vous disiez à la puissance publique, laissez-nous un peu tranquille, on sait faire.
Alors nous, on essaye de ne pas rentrer dans ces débats politiques. Nous, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, c'est les acteurs. Et on sait que les acteurs sont capables de faire énormément de choses en se prenant par la main et en décidant d'agir sans attendre. C'est ça notre conviction. Après, que la puissance publique s'empare, entre guillemets, des paquets cadeaux qu'on leur fait avec ces acteurs qui décident d'agir, eh ben tant mieux, c'est parfait. C'est cadeau et on est ravis que ça fasse des petits.
Ben finalement, vous le faites pour supplier quelque part à la puissance publique. Mais c'est normal, il faut bien que je fasse un peu mon journaliste. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver toutes ces informations, Axel?
L'Université de la Ville de Demain, qui est un site qui éditorialise les actions collectives de l'UVD.
Je gage, mon cher Axel, qu'on va vous retrouver bientôt sur les ondes de Radio Imo et en images. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
Et voilà, de retour sur le plateau. Et comme chaque semaine, vous le savez, les amis, Radio Immo s'intéresse à l'innovation avec notre ami Jean-Michel Royot qui va recevoir Mathieu Mouflet, qui est le CEO et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Toltec.
Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi d'accueillir Mathieu Mouflet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Jean-Michel.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
En
merci
pleine
pour
forme.
L'opportunité. Ouais.
Alors Mathieu va nous parler de sa start-up Toltec. T-O-L-T-E-K.
Exactement.
C'est bien ça? Alors ça fait quoi? Quelle est votre promesse chez Toltec?
Alors aujourd'hui chez Toltec, on s'est donné pour mission d'éradiquer les passoires thermiques. C'est très simple, c'est une solution qui facilite l'investissement immobilier dans les biens à rénover. Donc en fait, elle permet d'analyser, de détecter et de calculer les travaux énergétiques et les aires énergétiques disponibles pour pouvoir faciliter l'investissement pour les investisseurs.
Parfait. Alors c'est effectivement particulièrement d'actualité.
Oui.
Puis on, si on a le temps d'en parler, on parlera des DPE et peut-être des changements de quel impact ça peut avoir, mais on va pas rentrer d'abord sur cette question. On va vous donner une minute top chrono pour tout savoir. Alors depuis quand ça existe, combien vous êtes dans cette nouvelle start-up puisque elle est quand même assez récente.
Oui.
Comment ça marche, c'est quoi votre business model? Voilà, on veut tout savoir. Qu'est-ce que vous intervenez dans des zones géographiques spécifiques? Voilà, on veut tout savoir, Mathieu. C'est à vous.
Ok, let's go. Donc en fait, c'était très simple. Aujourd'hui, nous, on est une start-up qui existe depuis un an. Il nous a fallu un an pour développer la bonne solution. On est à peu près 8 collaborateurs. Et c'est très simple. Aujourd'hui, c'est une solution qui permet de faciliter l'investissement dans les biens immobiliers. On recense en fait tous les biens en DPE, F et G. Et on a développé un algorithme qui permet de calculer et d'estimer la rentabilité immobilière pour détecter la rentabilité la plus efficace pour un investisseur. Donc aujourd'hui, c'est disponible en achat-revente et en location longue durée. Et demain, ce sera disponible pour la colocation et la location courte durée également. Donc aujourd'hui, on est principalement ciblé vers le B2C, vers les primo-investisseurs, ceux qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier, mais qui ne savent pas vraiment vers où se positionner. Bah aujourd'hui, dans la crise actuelle, il y a des opportunités, et ce sont ces fameux biens-là, mais également les investisseurs un peu plus expérimentés, qui souhaitent faciliter leur investissement. Donc aujourd'hui, on fonctionne très simplement, donc sous forme d'abonnement, donc 14,99€ pour avoir accès à tous nos outils. Nos outils qui nous permettent tout simplement d'investir facilement dans l'immobilier pour éradiquer ces passoires thermiques.
D'accord. Écoutez, ça a l'air extrêmement facile tel que vous le présentez. On ira évidemment voir sur le site de Toltec. Est-ce que vous pouvez nous donner, alors on a bien compris que c'était récent, vous intervenez sur quel territoire?
Aujourd'hui, on est présent sur toute la France.
Et l'outre-mer?
Et sauf l'outre-mer. Donc vraiment sur le territoire français.
D'accord. Métropolitain.
Ok, parfait.
Exactement. Ok, vous pouvez nous donner des références qui vous font confiance?
Oui, on a aujourd'hui principalement un réseau de marchands de biens qui existe depuis une petite année maintenant. Il y a plus d'une centaine de marchands de biens. Donc le réseau Immo314 avec lequel on est partenaire. On est principalement centré sur les B2C. On a lancé la solution depuis début février et on a plus de 200 abonnements qui ont été générés. Donc ça montre une vraie traction et un vrai intérêt vers ce qu'on propose et c'est très encourageant.
Ok, super. Écoutez, ça me paraît très intéressant. Alors, si on veut vous contacter d'une manière pratico-pratique, on fait comment?
C'est très simple. Aujourd'hui, on est présent sur LinkedIn et Instagram. Et le plus simple, c'est d'aller directement sur toltec.co.
LinkedIn, c'est Mathieu Mouflet.
Mathieu Mouflet.
M-O-U-F-L-E-T.
Exactement.
Et Toltec, T-O-L-T-E-K.
Exactement.
Parfait. Écoutez, on reprendra tous ces éléments dans le post qu'on va faire après l'émission, évidemment. Et puis, au nom de Radio Immo, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise là qui démarre fort et qui est évidemment extrêmement d'actualité. Donc, ça devrait intéresser non seulement les B2C, mais moi, je pense que le B2B va être aussi un marché d'avenir pour vous. En vous écoutant, je me disais, mais tous les acteurs qui investissent dans le co-living sur des immeubles déjà là.
Exactement.
Il y a sans aucun doute des synergies à trouver avec Toltec. En tout cas, un grand bravo.
Merci.
Et plein de succès. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Immo.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
Bonjour Bérénice de Villefloriot.
Bonjour Sylvain Lille-Valency.
Comment ça va aujourd'hui?
Eh bien, en pleine forme.
Vous étiez pendant deux jours,
voilà.
Deux journées très remplies. D'ailleurs, vous avez même fait un saut au Salon de l'Immobilier qui était au Carreau du Temple également. Vous étiez au Forum de l'Aménagement avec nos amis de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Les deux jours ont été intenses, Bérénice.
Oui, deux jours intenses avec plusieurs tables rondes, plusieurs conférences sur l'aménagement, évidemment, mais pas que. Alors, on a parlé aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va révolutionner l'aménagement? On a reçu Sylvain Grisot, qui est un urbaniste assez célèbre. Hein. Il y avait énormément de monde quand il est intervenu sur notre plateau. Il est fondateur de Dixit.net. Et puis, on a parlé aussi aménagement des territoires de demain. On a parlé du programme Action Cœur de Ville qui a entamé son deuxième volet. C'était passionnant. Et alors, toutes les conférences, toutes les tables rondes sont évidemment à retrouver sur radio.imo. Et vraiment, je vous invite à aller les écouter parce que c'est très, très intéressant. C'était des experts assez connus, très pointus. Et puis, on a reçu évidemment le ministre du Logement, Guillaume Casbarian.
Merci Bérénice, effectivement un programme extrêmement chargé pour ces deux jours et on a hâte que vous reveniez dans nos studios. On enchaîne avec la suite de notre programme avec notre invité qui est sur le plateau, Timothée Maucourt. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about...
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.